On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonjour et bienvenue à tous sur France Bleu pour votre émission de témoignages. Chaque jour, on choisit un thème qui vous concerne. Chaque jour, vous venez en parler. Et voici une illustration sonore pour découvrir le sujet ensemble.
Patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage.
Et voilà, un extrait du dessin animé Cendrillon, ce sont des souris qui chantent, pour parler d'un sujet encore tabou, les mamans débordées, épuisées, celles qui craquent, le burn-out maternel, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors qu'on nous dit à tour de bras qu'être maman est la plus belle chose du monde, certaines, et vous en faites peut-être partie, n'y arrivent pas. Elles sont fatiguées, tristes, débordées, anxieuses, n'arrivent pas à tout gérer, et se retrouvent l'œil vide, sans plus rien ressentir, ni pour elles, ni pour leur enfant. Le tableau est forcément très noir, mais si vous l'avez vécu, vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors on va déculpabiliser toutes les mamans et en parler aujourd'hui. Comment vous vous êtes retrouvée, vous aussi, au bord de la dépression après la naissance de votre enfant? Par quelle phase êtes-vous passée? Est-ce que vous avez fait semblant que tout allait bien, comme beaucoup de femmes? 0810 055 056 pour nous rejoindre, en compagnie aujourd'hui de la psychologue Etty Buzyn, auteure de « Quand les mères craquent » chez Le Duc Édition. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Ça y est, on ose enfin en parler, on ose enfin dire qu'être une mère parfaite, ce n'est pas forcément possible.
Moi, je dirais que c'est même pas souhaitable du tout. Une mère parfaite, c'est illusoire. Et en outre, il faut savoir que si une mère parfaite, elle occuperait tout le terrain, elle laisserait aucun espace à son enfant pour faire ses propres expériences, parce qu'elle serait dans la fusion, dans le contrôle permanent. Donc voilà.
Ben c'est bien, au moins comme ça, on le dit, on dit les choses dès le départ.
Vive les mères imparfaites.
Eh bien justement, les mères imparfaites, les mères débordées, les mères au bord de la rupture même. On vous attend, venez témoigner, vous pouvez changer de prénom et de ville si vous trouvez que c'est un petit peu difficile d'en parler. Venez surtout en parler et on va essayer de déculpabiliser tout le monde aujourd'hui.
Partagez vos bons conseils, on se dit tout sur France Bleu.
Devenir maman, ce n'est pas si simple que ça, c'est même pour certaines carrément compliqué, épuisant, il faut tout gérer à la fois, les tâches de la maison, l'enfant ou les enfants, parfois le travail quand on y retourne, rester une épouse désirable et certaines n'y arrivent pas, à juste titre. On parle d'épuisement maternel, de burn-out maternel avec beaucoup de fatigue, d'épuisement, de questions. On va parler tout ça avec vous sur France Bleu, on n'ose pas toujours en parler, mais certaines mamans sont au bout du rouleau avec des envies suicidaires ou des envies de violence même, disons-le, sur leur enfant. Si vous l'avez vécu, si vous avez eu du mal à en parler autour de vous, aujourd'hui, pas de crainte à avoir. On n'est pas là pour juger, mais justement pour se dire les choses. Venez nous rejoindre en compagnie de la psychologue Etty Buzyn, qui est notre grand témoin. Et c'est Julie qui nous appelle depuis l'Hérault. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous vous êtes reconnue dans cette définition du burn-out maternel. Ça vous est arrivé après votre deuxième enfant?
C'est ça, tout à fait. Ouais, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Et c'est vrai qu'à la suite de l'accouchement de mon fils, qui a 8 mois maintenant, j'ai fait une dépression postpartum. Et là, ça n'a pas du tout été facile de gérer justement déjà mes deux enfants, l'école pour la plus grande, les tâches quotidiennes, avec la culpabilité qui va avec, et puis tout ça. Donc j'ai eu la chance d'être épaulée par ma maman, qui était vachement présente, mon conjoint aussi. Aujourd'hui ça va mieux, mais sur le moment c'est vrai que c'était pas du tout facile quoi, et puis c'est vraiment un sentiment qu'on ne peut pas se permettre, enfin moi je ne m'autorisais pas à être dans cet état, donc c'était très difficile.
Il y a beaucoup de culpabilité, on l'entend bien Etty sur le témoignage de Julie et sur la plupart des mamans débordées, cette culpabilité il faut en sortir justement pour réussir à passer le cap.
Oui, parce que en fait la responsabilité qui pèse sur le dos des femmes est énorme, je veux dire porter un bébé, il y a des incidences dont les hommes ne soupçonnent pas l'importance, enfin c'est vraiment être squatté par un petit être comme ça dans la même peau, dans la même, c'est pas évident. Les suites aussi, la naissance, enfin c'est pas toujours.
Et Julie disait, j'ai de la chance, j'ai été épaulée par ma maman et mon conjoint. Oui. Ça c'est pas toujours le cas. Il y a parfois des réflexions, des réflexions de l'entourage qui sont très violentes quand même.
Bien évidemment, je veux dire qu'elle a eu de la chance et que c'est grâce à cela, j'imagine, qu'elle a pu s'en sortir. Je pense qu'elle en est sortie. Alors le postpartum, il faut quand même savoir, c'est assez fréquent. C'est une espèce de vide. que ressentent les femmes. C'est lié certes à ce qui les attend, c'est-à-dire aux responsabilités qu'elles affrontent, mais aussi à un vide, le vide d'avoir tout à coup d'être vidée de cette, de ce bébé qui tout à coup vous, vous tombe dans les bras, quoi, je veux dire. Et là, c'est une, c'est la confrontation au réel, quoi. Au réel
si vous deviez décrire ça, Julie, ça ressemblait à quoi votre journée à cette époque-là, quand vous vous réveillez, par exemple? Est-ce que c'est, oh mon Dieu, c'est une montagne insurmontable qui se dresse devant moi? Comment, dans quel état vous étiez?
C'était un peu ça, ouais. Disons que j'avais pas envie de m'occuper des autres, et notamment de mes enfants. J'avais envie qu'on s'occupe de moi, en fait. Et c'est vraiment ça qui était, voilà, c'est un peu l'appel au secours. Et c'est là où ma maman et mon conjoint ont su entendre un peu mes cris de détresse, quoi. C'était vraiment ça. J'avais besoin qu'on s'occupe de moi, et j'avais vraiment pas l'énergie de m'occuper de mes enfants, quoi. Donc c'était un peu compliqué, ouais.
Vous en parlez, ça, Etty Buzyn, dans votre livre, Quand les mères craquent, de cette distanciation, de cette envie de s'occuper de soi d'abord et pas des autres.
Oui, tout à fait. C'est comme si l'énergie avait totalement disparu. Enfin, en tous les cas, cette empathie qu'ont les mères, en particulier vis-à-vis de leurs enfants, tout à coup, elle est pompée, quoi. Elle n'existe plus. Et il reste cette espèce de souffrance de se sentir à côté de la plaque, enfin, de plus être opérationnel. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour les mamans, en particulier une maman comme vous, madame, qui semblait être très attentive. Enfin,
comment ça va aujourd'hui, Julie?
Eh bien, écoutez, ça va mieux. 8 mois après, je peux dire que ça va mieux. Alors, je me sens encore un peu fragile. Voilà, je suis pas totalement guérie, entre guillemets, mais j'ai encore mes petites failles. Mais c'est vrai que ça va relativement mieux quand même.
Etty Buzyn, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, vous dites 8 mois, ça me paraît vraiment long pour un postpartum, parce que c'est généralement, ça dure, beaucoup moins que cela.
Alors, j'ai été suivie à la suite de mon accouchement, j'ai été suivie par un psychiatre. Il y a un traitement qui a été mis en place.
Ah oui, c'est plus
d'antidépresseurs, et puis voilà. Donc
non, c'est plus qu'un postpartum, madame, probablement. Enfin, je sais pas à quoi ça vous renvoie, mais ça me paraît plus important. Enfin, plus.
La bonne nouvelle, c'est que ça va mieux aujourd'hui.
Oui, voilà.
C'est ce qu'on va retenir aussi. Ouais, merci beaucoup.
J'appelle pour ça aussi. Pour dire
que c'est possible, en tout cas.
On peut s'en sortir.
C'est possible.
Et qu'il faut être bien entouré. C'est aussi ça qu'on a noté. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été la première à témoigner aujourd'hui sur France Bleu. On continue de parler de ces mamans fatiguées, débordées, au bout du rouleau. Quand les mères craquent, c'est le titre du livre d'Etty Buzyn, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi votre vie. 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Et on parle aujourd'hui d'un sujet encore trop tabou, mais qui touche bien plus de femmes qu'on ne l'imagine, l'épuisement maternel, ou quand les mères craquent, pour reprendre le titre du livre de notre grand témoin Etty Buzyn. Vous aviez a priori tout pour être heureuse, un enfant que vous aviez désiré, un mari aimant, et puis vous avez tout de même craqué, épuisé par toutes ces tâches, avec l'impression de courir partout en permanence, de n'être qu'une machine à laver, à changer les couches, à faire à manger, fatiguée, épuisée, vos gestes sont devenus mécaniques et même sont devenus violent parfois envers vos enfants. Vous avez pris vos distances pour vous économiser, rien vous agaçait, au point de carrément péter les plombs, le burn-out maternel. On en parle aujourd'hui sur France Bleu et on vous attend pour témoigner, comme Roselyne qui nous appelle des Landes. Bonjour Roselyne.
Bonjour à toute l'équipe.
Roselyne, votre témoignage est très important parce qu'on parle effectivement des mères qui craquent du burn-out maternel et on aurait tendance à penser que ça se fait après la naissance, pas du tout pour vous.
Non, pas du tout, pas du tout. Moi je me suis retrouvée très jeune veuve, donc en 38 ans, donc il y a 20 ans de ça, avec 4 enfants sur les bras, et on m'avait dit, vos enfants ont vos chromosomes, ce qui est très très joli, c'est-à-dire ils ont une forte personnalité, du tempérament, ils étaient matures forcément de bonne heure, et à un moment donné, je menais de front toute seule élever les enfants. Évidemment, j'avais un très mauvais contact avec ma belle-mère, c'était pas nouveau, et le travail, parce que ben voilà, il fallait assumer tout ça, c'est brûler la marmite. J'ai mis un petit peu ma vie aussi privée de côté parce que je voulais pas leur imposer quelqu'un avec qui ça pourrait se passer mal, puisque bon, moi, le père des enfants de Gainsbourg était passé à Gainsbar. Et j'avais à l'époque l'état d'esprit du procureur de Douai, donc voilà pourquoi ma belle-mère, évidemment, m'accablait et risquait pas de me soutenir. Ma mère italienne, un peu archaïque, on épouse le mari pour le meilleur, tant pis si on a le pire. Donc j'ai dû assumer toute seule avec, évidemment, la nounou quand je travaillais pour le plus petit à l'époque. Voilà, j'ai dû m'organiser tout ça. Et à un moment donné, Je n'en pouvais plus parce que bon, déjà remonter un peu par ma belle-mère, les enfants, évidemment, elle avait un impact sur eux. Ils jouaient forcément sur les deux tableaux, moyennant la pièce, un chèque un peu plus ado et tout ça. Donc un jour, voilà, mais un jour, je n'en pouvais plus. Donc j'ai dit, votre père a manqué me faire craquer, vous n'allez pas y arriver. Et donc j'ai décidé de me barrer, mettre les voiles. Pendant le week-end, donc les deux aînés, parce qu'elle était déjà partie, mais les deux filles que j'avais rapprochées avaient 15 mois d'écart, donc une avait 14 et 15 ans, l'autre à peu près, et mon fils devait avoir 8-9 ans, donc je savais qu'ils étaient autonomes, que mes filles savaient faire manger.
Que vous pouviez prendre l'air en fait.
Voilà, en fait oui, il y avait toutes les conditions requises parce que je suis quelqu'un qui ratisse large. Et je m'étais dit, puis je leur avais bien mis dans la tête, appelez la grand-mère, elle vous récupérera, comme elle s'occupait pas de, à part pour leur tirer les vers du nez, et jouer le côté pervers. Et je dis, ou alors vous allez finir à la DAS, chose que je savais, je me battais pour ça, que forcément, elle n'allait pas...
Oui, rester. Mais ça, on dit parfois voilà. des choses. Roselyne, je vous coupe deux secondes pour laisser la parole à notre grand témoin, Etty Buzyn. Déjà, parler de ce burn-out maternel, de ce craquage au moment de l'adolescence, vous l'abordez dans votre livre, c'est vrai que c'est pas toujours après la naissance des enfants. Hein.
Non, pas toujours, mais il faut savoir que l'adolescence, c'est une sorte de répétition de la petite adolescence, celle de 2-3 ans, vous savez, le non, l'opposition, les crises de, enfin bref, tout ça. Et vous retrouvez ça 10 ans après. Hein. Ça, c'est assez classique, il y a un lien. Et parfois, je préviens d'ailleurs les parents quand je vois un enfant, une difficulté un peu caractérielle. Alors, il va falloir le régler maintenant parce que vous risquez de retrouver ça plus tard. Donc, je comprends très bien cette dame, mais ce que je trouve, c'est que vous avez tout de même des ressorts et une certaine capacité à rebondir et à trouver des solutions. Alors, d'une certaine façon, c'est assez sécurisant pour les enfants de savoir qu'ils ont une mère aussi forte que vous semblez l'être, malgré ce moment difficile que vous avez passé.
Et prendre l'air, c'est important. Se donner du temps et se garder du temps, surtout. On y reviendra d'ailleurs.
Se retrouver soi-même, oui.
Merci beaucoup, Roselyne, pour votre témoignage. Et on continue de parler de ces mamans débordées, dépassées, au bord de la rupture. Le burn-out maternel, comme on l'appelle. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Etty Buzyn, psychologue et auteur du livre « Quand les mères craquent », c'est chez Le Duc Édition.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Troubles du sommeil, de l'humeur, de l'alimentation, stress, fatigue, vous avez connu ça à la naissance de votre premier enfant, ou plus tard au deuxième ou troisième, ou pendant qu'ils étaient adolescents alors que tout allait bien. De plus en plus de femmes sont touchées par ce qu'on appelle le burn-out maternel, elles craquent. Ça commence par l'impossibilité de supporter les cris, les pleurs, par le manque d'envie, d'affection même pour son enfant et son conjoint, par des envies parfois violentes, par des gestes qui deviennent mécaniques, un enfermement que l'on cache évidemment devant les copines ou les autres mamans. Parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas qu'on n'y arrive pas, parce qu'a priori, les autres, elles, y arrivent. Aujourd'hui, ne vous cachez pas et venez en parler, c'est important. 0810 055 056. Quand les mères craquent, c'est le titre du livre de la psychologue Etty Buzyn, qui est notre grand témoin chez Le Duc Édition, et c'est aussi le sujet dont se dit tout. On a beaucoup d'appels, Etty Buzyn, pour parler du baby blues, de la dépression postpartum. C'est pas vraiment la même chose, hein, on est d'accord.
Non, c'est pas une pathologie, quoi. C'est presque une réaction normale au vide que peut ressentir une maman une fois que son bébé est né. Enfin, elle faisait le job jusque-là et tout à coup, c'est un autre job qui se profile. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de remaniement. Il va falloir qu'elle s'adapte à cette réalité-là. Donc, le baby blues, bon, c'est passager, on va dire ça comme ça.
Alors, aujourd'hui, on en parle heureusement, mais il y a quelques années, c'était compliqué d'en parler. On va d'ailleurs y revenir avec Corinne à Limoges. Bonjour, Corinne.
Bonjour.
Vous êtes d'accord qu'il y a quelques années, on prenait pas du tout en compte le burn-out maternel ?
Pas du tout. On le mettait même à l'écart.
Ça vous est arrivé, vous, Corinne ?
Oui. J'ai perdu la garde suite à une grosse dépression. Mon fils avait 3 ans et j'ai perdu la garde au niveau des tribunaux. C'était en 95.
Quand vous dites suite à une dépression, qu'est-ce qui se passait dans votre tête, dans votre corps, dans votre quotidien ?
Ben, je pense que j'étais jeune et voilà, plus envie de regarder mon enfant, plus envie de le toucher, plus envie d'avoir peur de lui faire du mal et j'ai préféré le confier à son papa et puis voilà.
Ça, c'est vraiment troublant quand on entend Corinne. Et je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui ne comprennent pas et qui disent « mais c'est pas possible, on a ne pas avoir envie de prendre son enfant dans les bras ». Pourtant, ça fait partie de ce craquage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, j'ai envie de dire que ça se travaille avec une aide, avec un soutien. C'est ça que je ne comprends pas, que tout de suite, on vous ait comme ça stigmatisé comme une mauvaise mère, où vous ayez ce sentiment-là. C'est très, très étrange, enfin, de ne pas avoir tenté quelque chose. Enfin,
Vous arriviez à en parler autour de vous, Corinne ?
Non, à l'époque, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé quelques années après, mais sur le coup, c'est plutôt la honte qui s'installe et avoir envie. Enfin, j'avais pas envie d'aide à l'époque, quoi. Et quand j'ai demandé de l'aide, ben, c'était trop tard.
Et vous passiez à l'acte, vous aviez des gestes déplacés par rapport à cet enfant. Il y a eu des témoins, enfin, je veux dire.
Non, jamais. Après, vous savez, les êtres humains se déchirent souvent les enfants, et c'est les enfants qui payent les pots cassés.
Oui, c'est ça.
Après, on se sert d'une petite bavure de la
tout
maman pour en faire un gros...
Tout à fait, j'ai eu ça, oui tout à fait.
J'élargis un tout petit peu le sujet, Corinne, mais comment on retrouve le lien aussi avec son enfant des années plus tard ? Est-ce que ça laisse des marques ou pas ?
Aujourd'hui, à 25 ans, vous savez, non, on ne retrouve pas forcément des liens, puis c'est dur parce qu'après, les êtres humains rajoutent leurs petites graines de méchanceté et puis l'enfant a souffert, hein, mon fils a souffert dans tout ça, donc c'est difficile, le lien n'existe pas.
L'extérieur, on entend encore une fois les gens de l'extérieur, Corinne nous dit la méchanceté, ça revient quand même beaucoup, j'ai l'impression, les mamans peut-être plus bienveillantes que les belles mamans, les copines qui donnent des faux bons conseils, ça aussi vous en entendez beaucoup parler.
Oui, c'est très très fréquent et c'est vrai que du coup la maman elle a du mal à s'y retrouver enfin dans toutes ces conseils. Enfin ce qui me frappe quand même c'est que vous n'ayez eu aucune chance de le récupérer. À un moment donné vous avez dû sentir le manque peut-être, non ?
Ah mais le manque il est là. Le manque vous pouvez pas vivre sans et les années passent et ça fait un creux.
Vous n'avez pas pu refaire une action je sais, de façon à.
Si ça a duré 9 ans.
C'est effrayant, oui, c'est vrai. Et le papa s'est sans doute servi de tout ça pour...
Bien sûr, le papa. Le papa, on ne va pas lui mettre le couteau dans la plaie, c'est trop facile. Mais voilà, je lui ai donné l'occasion d'être un papa extraordinaire. Et puis aujourd'hui, aux yeux de son fils, c'est un papa extraordinaire avec tous les mensonges qui entourent.
Oui, il dit quoi, votre fils, de vous, quand il parle peut-être de cette dépression que vous avez faite ? Qu'est-ce qu'il retient, lui, votre fils ?
Il ne veut pas l'entendre. Oui. Aujourd'hui, des années après, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'écouter, ce que je peux comprendre. Hein.
Il se protège, il se protège, bien sûr, parce que c'est culpabilisant pour lui. Si c'est sa naissance qui a provoqué cela, bien entendu, il préfère ne pas en entendre.
C'est un grand garçon aujourd'hui, 25 ans, peut-être que lui aussi pense peut-être à avoir des enfants, peut-être que le sujet pourra être abordé aussi à ce moment-là. Hein.
Oui, je pense aussi que vous devriez, en tout cas, essayer de lui donner des signes d'intérêt, peut-être, et de persévérer, parce qu'à un moment donné, il reviendra. Je veux dire, forcément, il aura besoin de votre regard, s'il a des enfants lui-même. Je crois qu'il ne faut pas lâcher.
Merci beaucoup, Corinne, pour votre témoignage qui est très touchant. On parle du burn-out maternel. Quand les mères craquent, c'est le sujet d'On se dit tout. Pour encore 30 minutes, on vous attend au 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. Avec Vanessa Lambert.
Elles sont débordées, dépassées, fatiguées et n'osent se plaindre. Elles, ce sont les mamans de plus en plus au bout du rouleau. En cause, la fameuse charge mentale dont on a beaucoup parlé. Comment tout gérer sans péter un plomb et comment en parler surtout et à qui ? Venez nous raconter comment vous l'avez vécu, comment vous en êtes sorti aussi. 0810 055 056, on vous attend sur France Bleu avec la psychologue Etty Buzyn, auteure de « Quand les mères craquent » chez Le Duc Édition. Et nous sommes avec Cécile en Provence. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, j'ai écouté votre émission. Je suis actuellement sur l'autoroute en voiture et je viens de découvrir que ce que je vis existe et qu'on pose un mot dessus et que ça s'appelle le burn-out maternel. Je le vis depuis maintenant 2 ans. J'ai 3 enfants, j'ai 39 ans. J'ai 2 adolescentes, l'aînée à 14 ans, la deuxième 11 ans et mon dernier à 6 ans. J'expliquais au standard, c'est que je n'existe plus. Aujourd'hui, je suis une femme, en plus j'ai un métier à responsabilité, je gère une entreprise de 400 salariés. Mon mariage est foutu en l'air, on s'est séparés avec mon mari. et je vis pour mes enfants. Je n'existe plus. Moi, la personne que je suis n'existe plus. Je ne sais plus qui je suis. Je suis vouée corderme à mes enfants. Quand ils font bien, c'est super. Je me sens ravie. Quand ils font mal, je culpabilise. Je perds pied et chaque jour, je me dis, aujourd'hui, jusqu'ici, tout va bien. Mais je ne sais plus comment faire. Je n'existe plus. Je ne sais plus. Je n'ai pas vécu le burn-out ou le baby blues à la naissance de mes enfants, non.
Mais c'est aujourd'hui.
Mais je souffre terriblement parce que je me dis que le résultat de ce que j'ai avec mes enfants, c'est ma faute à moi. Quand ils font bien, tout va bien, c'est grâce à moi. Quand ils font mal, ben c'est grâce à moi, c'est à cause de moi.
Et Thibut, vous vouliez justement répondre à Cécile.
Oui, Cécile, j'entends, ça paraît en effet assez massif, mais oui, il est le père là dans cette histoire parce qu'enfin, il a une certaine part dans la présence de ses enfants. Où est-il? À quoi sert-il?
Pardon. Le père, il m'en veut parce que je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber, pas physiquement, je l'ai laissé tomber dans le couple. Ah. Je suis devenue une mère, je suis devenue une salariée, c'est-à-dire directrice de l'entreprise que j'ai. Parce que ça paye les factures, parce que je me suis mise deux responsabilités.
Mais dans le quotidien, il vous aidait dans le quotidien,
non.
Cécile?
Non.
Et quelle responsabilité a-t-il pris vis-à-vis de ses enfants, je veux dire? Vous pouvez aussi...
Il n'est pas le père que j'attendais. Alors c'est aussi de ma faute parce que j'ai idéalisé le père. J'ai idéalisé une certaine pédagogie qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu avec nos enfants. Donc il est plus actif, il est plus dans le reproche. Je voulais avoir pour mes enfants une éducation positive pour les tirer vers le haut. Et je vois que je réussis pas forcément. J'ai des faiblesses, j'y arrive pas tout le temps. Mais lui, il n'était pas du tout comme moi. Et c'était des heurts, et c'était des disputes. Donc ça a été infernal. Je n'étais plus une femme, j'étais plus une épouse.
Cécile, on entend que là, vous êtes épuisée au bout du rouleau. Est-ce que vous êtes aidée, Cécile? Est-ce que vous êtes aidée? Est-ce que vous avez demandé justement une aide extérieure?
Familiale ou autre?
Non. Personne ne m'aide. J'aurais honte. Vous rendez compte? Je dirige une société de 400 salariés. J'ai affaire souvent à des hommes, un milieu très masculin.
Mais vous n'êtes pas obligée de le dire sur votre lieu de travail, Cécile. Cécile, vous n'êtes pas obligée de le dire que ça va pas sur votre lieu de travail. Enfin, l'important, c'est de vous faire aider, vous, personnellement.
Ça n'a rien à voir. Enfin, ce sont deux registres totalement différents. Je crois vraiment que il me semble que sur le plan professionnel, ça a l'air de rouler. Mais le problème, il est dans votre vie personnelle. Et clairement, il faudrait pouvoir déléguer un peu. Je sais pas de quelle façon. Même si le père n'est pas parfait, je vois pas pourquoi il s'occuperait pas en partie de ses enfants. Il y a des mères qui me disent souvent, mais s'il avait été comme ça, s'il avait pu s'en occuper comme il s'en occupe maintenant, j'aurais peut-être pas quitté. Donc vous pouvez peut-être, peut-on lui laisser une chance?
Et puis peut-être vous faire aider aussi vous personnellement d'aller voir quelqu'un et de poser un petit peu le paquet de temps
quelque
en temps.
Quelque part, oui.
Cécile, merci beaucoup de nous avoir appelé. Bon courage à vous et ne restez pas seule, c'est vraiment très important. On parle du burn-out maternel aujourd'hui dans On se dit tout quand les mères craquent. 0810 055 056 pour nous rejoindre.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les mamans débordées, c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui en compagnie de la psychologue Etty Buzyn, auteur de Quand les mères craquent chez Le Duc Édition. On parle des mamans débordées, mais parfois ce sont les papas qui craquent et on va voir justement Jérémy en Lorraine. Bonjour Jérémy.
Bonjour. Ben moi effectivement, je craque beaucoup parce que j'avais beaucoup de travail avec le mien récemment et c'est vrai que j'ai fini par faire une dépression post-mortem, mais c'était un peu compliqué.
Postpartum, attention.
Post-mortem, mais je voulais savoir si elle pouvait nous donner quelques remèdes parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on en a un et que c'est le premier en plus, alors là, c'est compliqué.
C'est compliqué pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous en fait, Jérémy?
C'est beaucoup de boulot en fait et c'est surtout, il faut s'en occuper. Il a des nuits parfois qui sont très, très très longues. Et quand on avait l'habitude de lui donner le biberon, il pleure pour tout et c'est un peu dur de le voir pleurer. Donc,
C'est dur pour vous, c'est dur pour vous et votre femme, c'est tous les deux vous.
C'est dur pour les deux et surtout pour elle et pour moi parce que c'est vrai que moi, j'arrive pas trop à le voir pleurer, c'est dur pour les deux.
Il a quel âge votre enfant aujourd'hui?
Il a 2 ans, il va avoir 2 ans, il est né au mois de septembre 2015.
Et depuis 2 ans c'est dur Jérémy?
Ouais, depuis 2 ans c'est dur, exactement.
Etty, quand on entend Jérémy, on sent aussi cette fragilité, ce côté « je suis prêt à craquer quand même là ».
Oui, mais enfin, pardonnez-moi, monsieur, mais un enfant qui a 2 ans ne dort toujours pas, ça mérite quand même qu'on se pose des questions ou qu'on le montre, enfin, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est pas tout à fait normal non plus. Ça aurait dû être réglé depuis. Donc, moi, je suggère que vous fassiez une démarche, enfin, de façon à vous soulager, à le soulager lui et vous aussi et sa maman. Enfin,
vous en avez parlé avec le
pédiatre.
Le pédiatre, oui.
Ah, vous pensez que ce serait bien d'aller voir le pédiatre?
Ah ben oui, enfin, je ne sais pas.
Vous avez tout géré tout seul, là, jusqu'ici?
Non, elle aussi, elle a géré en partie, mais c'est vrai que moi, elle est beaucoup surbookée parce qu'elle est au travail en ce moment, et c'est vrai que avec son boulot, elle s'en sort pas trop,
Non, mais quand je dis vous avez géré tout seul, tous les deux, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait appel à un professionnel de santé pour...
Non, on n'a pas fait appel du tout.
Et sur les rendez-vous médicaux obligatoires, vous en parlez de tout ça, de cette fatigue,
Oui, on en parlait, mais bon, après, on n'est pas allé plus loin que ça, on avait du mal aussi à peut-être en parler, alors, du coup, effectivement, le coup de la radio, là, ça nous a dit, ah ben tiens, si on va pouvoir en parler, là, ça va être super.
Parce que là, je vous sens stressé, Jérémy, mais vraiment, et votre enfant doit le ressentir aussi.
Oui, alors moi, je suis tout à fait ravie que ça puisse vous aider. Mais ce que je peux vous dire, si je peux me permettre, parce que bon, je vais faire un petit diagnostic, mais bien sûr très limité. Un enfant qui se réveille la nuit, c'est en général pas parce qu'il a des problèmes, c'est parce qu'il pense que ses parents ont des problèmes et que d'une certaine manière, il s'en inquiète. Voilà. Alors il faut essayer de travailler sur vous, ce qui se passe, et vous verrez qu'il sera très vite soulagé. En une ou deux séances, c'est réglé. Enfin, moi, j'ai cette habitude, j'ai encore eu hier soir, donc je peux vous dire qu'il y a des choses à faire. Il faut pas que vous considériez ça
que c'est normal, finalement. Oui, voilà, ça va passer,
chose de normal et de non, il y a des solutions. Vous pouvez pas continuer comme ça. Et en plus, c'est une grande fatigue pour un enfant de se réveiller toutes les heures et très déstabilisant.
Donc là, Jérémy, la bonne résolution de 2018, c'est d'aller consulter quelqu'un.
Absolument,
tous ensemble.
Hein. Vraiment, je le conseille vivement. Oui.
Jérémy, on compte sur vous, hein.
On va y aller.
Mais oui, ça va vous faire du bien à tous les trois, vous allez voir.
Ah, bah ça, j'espère. Surtout que, vu comment je l'aime, c'est vrai que des fois, ça me fait un peu peur de la perdre, des fois.
Mais non.
J'ai un peu peur de la perdre, des fois.
Mais justement, il faut prendre les choses en main quand c'est encore possible de le faire, quand c'est encore temps. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à aller voir un psychologue.
Mais bien sûr.
On va chez le coiffeur, on va chez le dentiste.
Chez le médecin,
chez
le dentiste. Et le psychologue, ça paraît encore, on en est encore au stade où aller chez le psychologue, c'est être fou. Non, c'est pas être fou, c'est juste avoir quelques problèmes qui sont d'un autre ordre. Le cerveau, il est dans la même peau que tout le reste. Tous les autres organes. Les autres organes, vous les traitez, ben, le cerveau, vous le traitez aussi. Enfin, ce qui se passe au niveau.
On devrait tous y aller au moins une fois. Et puis, quand ça ne va pas, on ne se pose pas la question, on y va. Jérémy, ça va se régler, j'en suis sûre. Et il faut, par contre, voilà, vous faire aider tous les trois. On parle aujourd'hui du burn-out maternel ou paternel. Là, on l'a entendu avec Jérémy. Venez nous rejoindre pour encore quelques minutes sur France Bleu au 0810 055 056. Si vous le vivez, si vous l'avez vécu, on vous attend avec notre grand témoin, Etty Buzyn, psychologue et auteur du livre « Quand les mères craquent, osez dire que vous n'en pouvez plus », c'est chez Le Duc Édition.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Devenir maman, ce n'est pas si simple que ça. C'est même pour certaines carrément compliqué, épuisant. Quand les mères craquent, c'est le sujet dont se dit tout. C'est aussi le titre du livre de notre grand témoin, Etty Buzyn. Et on en parle sur France Bleu avec vous pour encore quelques minutes. Direction la Drôme, chez Florence. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous avez 2 enfants et vous avez connu ça, vous aussi, cette période un peu de flottement, de déprime, de dépression même.
Même à plusieurs reprises, puisque j'ai un peu comme beaucoup de premier enfant, j'ai eu un baby blues après la naissance du premier. Ça s'est calmé après un déménagement, mais j'avais pas eu de soutien à cette époque-là, que ce soit de mon mari ou de ma famille. Par contre, ça a recommencé, entre guillemets, quand on a découvert que mon fils avait un handicap, mon deuxième. Parce que tout d'un coup, on avait le regard social, on a une pression tout d'un coup qui se met sur soi. Donc on a déjà ce rôle de mère où on essaye de faire au mieux. Et en plus, on a la pression en disant, bah voilà, vous avez un enfant avec handicap, vous devez rester à la maison, c'est votre rôle. Puis s'il a un handicap, bah, c'est à vous de le faire. Donc tout d'un coup, on se retrouve déjà avec le handicap de son enfant, qui est déjà une chose, mais en plus...
Une certaine culpabilité en plus qu'on vous fait porter.
En plus. Et quand j'ai réussi de nouveau à retravailler après un certain temps, quand la prise en charge de mon fils était bien rodée, j'ai pu retravailler, j'ai travaillé à 100%. Et il a fallu que je parte parce que, de nouveau, un peu ce jugement social et aussi le fait que j'ai craqué parce que il fallait que je m'occupe quand même à chaque fois qu'il y avait un problème de nounou, de mes enfants, de faire bien sûr entretenir la maison et avec l'exigence, mon mari a baissé son exigence depuis, mais à l'époque, il était encore à se dire, bah, écoute, tu peux quand même entretenir un peu plus la maison, il faut s'occuper des enfants. Moi, lui, il avait des déplacements, donc pour lui, c'était à moi de gérer toutes les sorties d'école et tout ça. Bref, à la fin, c'est physiquement que j'ai lâché, donc émotionnellement et physiquement, puisque mon corps a commencé à dérailler. Et du coup, j'ai arrêté de travailler à peu près un an maintenant, quasiment, que j'ai arrêté de travailler. Où pendant 2 mois, j'ai dormi quasiment non-stop, où je me suis chargée de mes enfants à chaque fois que je pouvais. Mais voilà.
Ce que vous racontez, Florence, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. On a mis enfin un mot dessus, la fameuse charge mentale.
C'est ça. Et du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai aussi décidé que ce regard social ne devait pas me pourrir la vie. Donc j'ai commencé, j'ai un peu ce que vous disiez juste avant, j'ai commencé à faire une psychothérapie. Ça a été difficile pour moi parce que dans ma famille, c'est la honte entre guillemets absolue. C'est comme vous disiez, avant c'était on est fou quand on va voir un psy.
Maintenant, c'est qu'on va bien quand on va voir un psy. C'est qu'on est bien dans sa tête, on a la bonne démarche. Il faut le voir comme ça.
Et du coup, j'ai décidé de le faire donc pour ne pas resubir de nouveau ça, parce que mes fils, donc le plus jeune a 8 ans, entre guillemets, c'était épisodique, cette espèce de tout d'un coup, on ne peut plus rien faire, à devenir irritable en permanence, à devenir fatigué à outrance, c'est pas possible, quoi.
Donc, est-ce qui est important? Oui, Etibuzin, pardon.
Je vous en prie. Non. Oui, je voulais dire que le travail, c'est aussi un espace pour vous où vous êtes dégagé de cette confrontation au quotidien. Alors peut-être qu'il serait bon aussi que vous repreniez quelque chose. C'est vraiment un espace qui vous est personnel.
Je continue à travailler, mais plus à plein temps, comme je faisais.
Ce serait bien.
Moi, le regard social, ça a été mon chef qui m'a dit, mais écoute, un enfant avec un handicap, je vois pas pourquoi tu travailles. Je me suis pris un peu
C'était
dans
un
la
homme,
figure.
Bien sûr.
C'est un homme, on est d'accord. Avec une femme qui ne travaille pas. Donc,
bon schéma, bien sûr.
Non, moi, je continue à travailler, mais j'ai un travail comme auto-entrepreneur.
Oui.
Donc, je continue à me faire plaisir avec ce travail-là. J'ai plein d'autres projets en dehors de mes enfants. Et du coup, je continue à vivre, entre guillemets. Ce que disait la dame avant, elle avait l'impression de ne plus être quelqu'un, quoi, d'être juste la mère de ses enfants. J'ai eu ce sentiment-là et maintenant, je suis en train de me créer ma propre personne.
Vous êtes un bon modèle pour les gens qui vous écoutent, en tout cas.
Ça fait du bien de terminer l'émission avec vous, surtout
d'espoir,
Florence.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu témoigner et d'où l'importance d'entamer une psychothérapie, d'aller voir quelqu'un et on l'a bien
aider,
entendu. Ouais. Merci beaucoup, Etibuzin, d'avoir été notre grand témoin.
Merci.
Quand les mères craquent, osez dire que vous n'en pouvez plus, c'est chez Le Duc Édition et vous dites dans votre livre, il est urgent de mettre des mots sur cette problématique, de dire aux femmes qu'elles n'ont aucune raison de culpabiliser, de se sentir épuisées et dépassées, qu'elles ne sont pas coupables. Ça, c'est
absolument
important.
Merci
encore. On se dit tout, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain, même heure, on parlera d'amour, de sexualité. Demain, comment réveiller le désir, ce sera avec vous et on en parlera pendant une heure.